Artiste en liberté.
Une émission goupillée par Fred et Hervé qui vous fait découvrir, dans les conditions du direct, les artistes locaux.
Entends l'accord de la paix, laissant que tous nos souhaits porte très loin sur nos îles, en tissant l'aube nouvelle. Oh, toi, la paix, comme un soleil. Oh, toi, la paix, comme un soleil. Apporte de la chaleur du ciel.
Bravo.
Bravo. Bonjour les auditeurs, vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est votre émission Artistes en Liberté. Bonjour Hervé.
Bonjour tout le monde.
Hervé, je te laisse présenter notre invité de cette émission, s'il te plaît.
Alors, notre invité, dans le générique, c'est marqué les artistes locaux. Pour une fois, ce n'est pas un artiste local, c'est une artiste internationale, puisque c'est Lydie Pacé. Et je dirais même plus Lydie Pacé.
Qui veut dire
paix en italien.
En italien, oui.
Bonjour Lydie.
Bonjour.
Alors, bonjour Lydie.
On a commencé par quoi? C'est quoi le morceau que tu as joué?
Alors, c'est juste un petit extrait du deuxième cantate de l'oratorio de la paix qui a été écrit par Harry Cox, un grand compositeur néerlandais qu'il avait composé, qui voulait que je la chante en fait. Et vu les situations du monde et comment les choses se passent sur cette terre, j'avais envie de fredonner quelques mots par rapport à ça.
Alors Fred, tu as rencontré Lydie
Oui, moi j'ai eu la chance de voir Lydie en concert donc, à l'église de Le Plessis-Belleville, dans le cadre des Journées du Patrimoine. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec Lydie. En fin de compte, c'était un événement qui était, disons, pas trop prévu au départ. Quoi. On vous a invité comment là-bas, Lydie?
En fait, on m'avait proposé de venir faire un récital en fait, au Plessis-Belleville. Il y a quelques mois, on m'a approché. Donc... En me précisant que c'était pour la journée des patrimoines. Et on sait, nous, les artistes, que souvent, la journée du patrimoine, ça permet aux gens de venir visiter les musées, visiter le patrimoine, et que ça peut faire venir du monde. Et c'était leur première édition, en fait. Et sur l'idée, j'avais dit, c'est bien, je ferais chanter mes élèves ou chanter des jeunes talents, etc., parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas des grands budgets, tout ça. Donc, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je ne vous lâcherai pas. Je vais organiser ça avec des artistes, un peu de variété, un peu de pianistes, etc. Je vais vous concocter quelque chose. Et dans les pires des cas, enfin, je n'ai pas pire des cas, j'allais chanter un ou deux morceaux, on verra. Mais je ne vous lâcherai pas. Et c'est comme ça, d'où l'idée... Et on avec ma compagnie Opéra World, on a dit, bon, on va faire ça. Et au retour des vacances, c'était déjà septembre. Et comme beaucoup d'élèves, pendant tout l'été, il y en a qui n'ont pas chanté, qui se sont, il y en a qui ont eu peur, certains. Et puis donc, du coup, j'ai gardé les Gospel Family, qui faisaient partie de mes élèves aussi.
Qui sont de Le Plessis-Belleville, en
qui
plus.
Qui sont du voilà. Plessis-Belleville, voilà. Et que,
bah, qu'on invitera sûrement, Hervé. Hein,
voilà. Donc, voilà, c'était une famille... la famille Gomba qui est formidable, la maman et ses filles, ses trois filles, ses quatre avec leur fils, voilà.
Et il y avait aussi un ténor, Hervé, je me permets de te couper.
Vas-y, vas-y.
Il y avait Alain Solomoyon, hein, c'est ouais, ça.
C'est hein. ça, Alain Solomoyon, qui est un ami à moi, qu'on se connaît, ça fait longtemps, on a chanté ensemble, on se connaît de la Bourgogne, et que je l'appelais, je dis viens, 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 et il est venu. Il dit, ça serait bien de venir faire un petit duo. On a fait le duo final de Aïda, oui. de Verdi, et lui, il a chanté deux airs, et moi, j'ai chanté... l'extrait de Aïda aussi, Ritorna Vincitor, Retourne vainqueur, et l'air Pace Pace Mio Dio Pepe, mon Dieu, voilà, de et la force avait, del voilà. destino.
Et on va finir avec Antea Lamine, avec, c'est ça ?
C'est ça.
Antea, qui est de votre famille, si j'ai
voilà,
bien compris.
Voilà, Antea Lamine, c'est ma nièce.
D'accord, voilà.
que j'ai, qui chante, ça fait quelques années qu'elle chante et qui a remporté des concours.
Ah, de, une très belle voix
voilà,
aussi.
Voilà, des petits ouais. concours, des concours de la voix française.
Alors là, c'est plus de la variété, hein, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, variété. Je lui ai dit, viens, comme ça, on mettrait une petite touche, un peu de tout. Oui. Ceux qui n'aiment pas trop l'opéra, bah, ils peuvent après t'apprécier, ouais. toi, apprécier. On a voulu faire un petit mélange.
Ouais, de entre gospel, le gospel, variété, variété et puis lyrique.
Et voilà. puis lyrique, voilà, ouais. pour donner un peu à tout le monde.
Bref, on a passé un très bel après-midi dans l'église de Le Plessis-Belleville.
Alors, pour les auditeurs, aujourd'hui, ça va être une découverte. Hein. On va parler un peu de ton parcours, parce que c'est quand même assez atypique. Hein. Toi, tu es né en République centrafricaine.
Oui.
Et tu as été obligé de partir quand tu avais 10 ans.
Voilà, je suis née en République centrafricaine et mon père était haut fonctionnaire en République centrafricaine.
Il était ministre ?
Il était ministre, comme c'était à la période de Bokassa et ouais, tout. Ouais. Et donc mon père a décidé en fait de partir avec toute la famille, ma mère, mes frères et sœurs, puis une deux tantes à moi. Et donc on a fui, on a... Un beau jour, on est parti, on a tous fui, on a quitté la Centrafrique pendant qu'il y avait encore l'empereur qui était encore là. Donc déraciné.
Et la destination, c'était la France obligatoirement.
Ben c'était soit on partait aux États-Unis, soit ou Israël, ou bien la France. Mon papa, on est venu en France, vu que c'est francophone aussi, la Centrafrique, on parle français. Et c'était plus simple pour lui parce qu'il a 7 enfants, donc j'ai des frères et sœurs. On était une famille nombreuse, donc c'était beaucoup plus simple, c'était l'évidence, donc qu'on est venu en France.
Toi, tu avais 10 ans, donc ça a été facile, cette coupure-là.
Cette coupure, je ne peux pas dire que c'était facile parce que en Afrique, j'étais heureuse. j'étais très heureuse. J'étais une enfance où on a manqué de rien, on avait la liberté, on allait des fois, mon père, les week-ends, nous emmenait dans son village natal. On allait des fois voir des pygmées. Enfin, on aimait beaucoup. Il y avait la nature, beaucoup de liberté, beaucoup de liberté. Je me rappelle de cette enfance, de beaucoup de joie, beaucoup de rire. J'ai laissé, en fait, mes tantes, mes cousines, tout ça. Ça m'a été... C'était un déchirement parce que, voilà. C'est quelque chose... on le dit peut-être pas assez, mais... Quand on est déraciné, ou en fait, quand on quitte... c'est pas toujours c'est pas comme si nous on était des immigrés, on n'était pas, on n'a pas voulu quitter,
déraciner,
voilà, on est parti malgré nous, et c'est ça la différence, c'est que s'il y avait pas eu beaucoup d'événements, bah, je pense qu'on y serait encore resté, voilà.
Mais c'est plus facile quand on a 10 ans que pour tes parents, par exemple.
Je pense que pour mes parents, ils ont tout laissé, hein. On est parti avec rien, juste les habits, et puis avec leurs économies, ils ont pu tout de suite louer quelque chose et nous inscrire à l'école.
Donc vous avez atterri à Paris.
On a atterri à Paris.
Et tout de suite, vous êtes parti en province.
Voilà. Un an après, le temps, parce qu'on a atterri en région parisienne. On est arrivé d'abord au départ dans un hôtel dans les 16e. Et après, on a quitté, on nous a trouvé un appartement du côté de... On était à Bagnolet.
Ah oui.
On est resté un an, je pense, un an et demi ou deux ans à Bagnolet. Et mon père ne voulait pas trop les tours.
Ah oui.
On était habitué à vivre dans les... pas dans les immeubles. Donc, il voulait, je me rappelle, il a demandé un endroit qui ressemble à la Lobaye.
La Lobaye,
c'est la région. Ouais. C'est sa région où il y a des cours d'eau, il y a la forêt et tout. Et... on nous a téléphoné pour nous dire qu'il y a un endroit qui est calme, qui est sympa, il y a des lacs, c'est l'Ain de Serran et toutes ces choses-là. Et donc, c'était pas loin, donc c'était Gouvieux. On s'est retrouvés à Gouvieux, à Vert-Chantilly.
Et après, toi, tu es venu sur Crépy, vous êtes venu sur Crépy.
Alors, pas toute la famille, parce que moi, j'ai vécu à Gouvieux avec mes parents. On a fait, j'ai fait le collège à Gouvieux. Après, j'allais faire le lycée à Compiègne avec le bus. J'étais interne. Donc je rentrais les week-ends. C'était très dur parce que j'ai jamais quitté mes parents, en fait. Et l'internat, pour moi, j'ai pas très bien vécu. Je pense que je faisais... j'ai chanté déjà là-bas, dans les fêtes de l'école, du lycée, des choses carnaval. J'étais toujours dedans, dans la danse et tout ça. Et je me suis inscrite même au club du théâtre. On a fait un spectacle au théâtre Le Gendre, je pense que ça existe toujours.
Ouais, Jean Le Gendre.
Voilà, La tête des hôtes de Marcel Aimé. Et j'ai joué la femme du procureur, et c'était marrant.
C'est important de connaître le parcours des gens, voilà, pour savoir comment ils arrivent.
Voilà. Et je pense que le professeur, on avait un intervenant au théâtre, justement, d'où le travail des artistes. Je trouve ça extraordinaire, parce que c'était un comédien professionnel qui venait faire des interventions au lycée. Et ils prenaient les volontaires qui voulaient participer au spectacle. Donc, on a travaillé pendant une année entière. Et en fin d'année, on représentait la pièce de théâtre.
Donc, un peu de théâtre. Mais comment tu es arrivé à la musique, alors? Au départ, tu pensais pas faire la musique, disons, classique ou lyrique ou l'opéra?
Pas du tout, en fait. Depuis l'enfance, j'aimais chanter.
En Afrique, tout le monde
chantait. En Afrique, tout le monde chantait. Mais moi, c'était encore... Je ne dis pas que c'était pire. J'aimais chanter, mais j'allais chanter. Je me déguisais en indienne. En indienne. Déjà, c'était original parce que je me déguisais en indienne pour faire les chansons de Bollywood.
Ah oui, d'accord.
Et donc, j'inventais les mots. Et je faisais, et je sais que je fatiguais tout le monde, mes tantes, elles disaient, mais arrête, tu nous fatigues, et tout, et je partais, je me déguisais, et j'allais dans la cour, j'ai dit, si vous voulez pas m'écouter, c'est pas grave, j'allais dans la cour et je dansais, j'inventais des musiques, des chants, et je chantais, et j'aimais danser aussi. Ce qui est marrant, je me rappelle d'une anecdote avec mon père. Il partait à Paris et j'ai dit à mon père, c'était lors d'une mission, j'ai dit, si tu pars à Paris, va m'acheter un tutu de danse. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, je demande un tutu de danse. On n'a même pas d'école de danse en Centrafrique, il n'y avait pas de conservatoire et tout. Et mon père, j'étais un peu capricieux, je pense. Et mon père, il a ses deux caprices. Il est parti m'acheter à la Samaritaine, je me rappelle, un tutu, une tenue de danse. Et sous 30 degrés, 35 degrés, dans la cour, je mettais ce tutu. Il y avait des enfants qui passaient, qui se moquaient un peu de moi, qui disaient, mais qu'est-ce qu'il fait avec son tutu en rose? Et je me tordais les pieds pour faire des pointes. Personne ne m'a expliqué à faire des pointes. Et je faisais des toupies, je tournais, et je comptais les pas.
Est-ce que tes parents, ils ont des photos de ça?
Je ne sais pas s'ils ont des photos, mais je sais que j'étais teigneuse avec cette histoire-là. J'ai fatigué tout le monde avec.
Tes parents, ils écoutaient de la musique, beaucoup de musique ou pas? Ou c'était toi simplement qui découvrais ça?
Mes parents,
t'étais dans un milieu musical?
Mes parents, ils aimaient écouter de la musique. J'avais une tante qui aimait chanter lors des cérémonies funèbres, c'est ça le mot. Et elle aimait bien, elle chantait, avait une voix, c'était comme un gospel, mais elle chantait ça en dialecte de mon papa. Et j'étais prise quand même ça. Et mes parents aimaient écouter la musique. Ils écoutaient toute forme de musique, mais l'opéra, je ne pense pas qu'on écoutait l'opéra. C'était plutôt la musique entraînante, la salsa, d'autres genres de musique que ça.
Alors, justement, comment on devient cantatrice? Tu dis, c'est quoi le parcours? Parce que Hervé, il a commencé à poser la question, mais comment on a découvert ta voix, ton talent?
Alors, on en vient, oui, justement. J'aimais chanter, donc on est revenu en France. Je chantais tout le temps. Et un jour, ma mère m'a amenée voir une professeure de chant. Je devais avoir 16 ans, je crois, au début. Et la dame a dit, eh oui, elle a une belle voix. Et après, on n'a pas insisté. Après, on est parti en Afrique 3 ans et je suis revenue. Et en fait, je me suis mariée. Avec, d'où le nom Patché. Le nom Patché, c'était le nom de mon mari, premier mari. Mmh. Et donc, je me suis mariée. Et pour moi, le mariage, il fallait être tranquille. Il ne faut pas chanter, il faut rester une femme exemplaire. Et en fait, exemplaire, c'est-à-dire que tu vas, tu fais ton travail, d'où tu vas au secrétariat, par exemple, tu prépares le repas bien, alors que je ne cuisinais même pas quand j'étais chez mes parents. Tout le monde, je cuisinais pas.
C'est une vision un peu archaïque quand même du rôle de la femme.
Oui. Du tout, ouais. De cuisiner pas. Et on avait des domestiques et tout. Moi, je cuisinais pas. Et son premier repas, mon mari, c'était un poulet que j'ai mis au four. J'étais fière de mon poulet, mais il n'était pas vidé. À table, il a mangé. Il s'est dit, mais mon Dieu, cette femme-là, là, c'est grave. Et donc, en fait, je n'étais pas du tout douée pour tout ça. Et ma mère, un jour... Je vais vous expliquer le déclic, elle vient me voir. J'étais mariée et tout, j'avais ma première fille déjà, je crois, Alexia. Et ma mère, elle me regarde et elle s'inquiétait parce qu'elle se disait, mais elle va tenir combien de temps dans ce rôle de grande ménagère avec des tabliers.
Oui, la potiche un peu.
Grands tabliers en faisant, et c'est pas mon caractère. Et avant de partir, ma mère me regarde dans les yeux et c'est ça qui a tout déclenché. Elle m'a dit, si parmi mes 7 enfants, s'il y en a une qui doit chanter, c'est toi. Si tu ne le fais pas maintenant, tu regretteras toute ta vie.
Ah oui.
Et ça, c'est les mots de ma mère. Mmh. Et quand je vois ses pas, elle partait. Elle dit, mais va pas chanter comme ça, tout le monde chante. Va apprendre, vraiment, dans un conservatoire. Va apprendre. Et quand elle partait, je pleurais, en fait, parce que la révélation, en fait, c'est une maman, elle connaît ses enfants. Mmh. Et elle savait que si je ne chantais pas, j'étais foutue, en fait.
Ouais,
j'étais
malheureuse. Quoi.
Malheureuse, parce que je chantais tout le temps. Petite, je chantais tout le temps. Et j'embêtais tout le monde. Donc, elle se disait, mais celle-là, si elle ne chante pas, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire?
Donc, quand tu t'es mis à chanter, tu chantais quoi? Des Negro Spirituals? Tu chantais de la soul, plutôt?
Alors, je ne vais pas oublier ma toute première prof de chant, parce qu'à Crépy, et du coup, j'habitais à Crépy, dans la rue Jeanne d'Arc, là-bas, dans le vieux Crépy. Et je demande l'autorisation à mon mari, est-ce que je peux aller m'inscrire à chanter? Et il était content. Il m'a dit, oui, vas-y. Il pensait que c'était juste la petite chansonnette, etc. Bon, il faut qu'elle aille chanter. Et du coup, moi, je suis partie, et je me rappellerai toujours, Madame Anna Coppel, qui avait le conservatoire du Valois, de musique Valois, je ne sais pas ça, c'était...
Musique en Valois.
Je vais la voir, c'était une professeure de piano, et je vais la voir, et je lui dis, madame, dites-moi, s'il n'y a pas d'espoir dans ma voix, j'avais déjà 22 ans, 23 ans, donc c'est déjà tard, je ne connaissais ni solfège, ni rien, je voulais juste chanter. Je lui dis, si vous pensez qu'il n'y a pas d'avenir, dites-le moi tout de suite, et j'arrêterai. Et elle était partie à son piano et elle m'a dit, tiens, elle m'a montré quelques notes de Negro Spiritual. Elle dit, essaie, chante ça. Elle répète et j'ai répété, on a pris en deux quelques minutes et je commençais à faire quelques phrases. Et elle m'a dit, si, t'as une couleur, t'as une voix, t'as une belle voix. Je veux bien, je ne suis pas prof de chant, mais je veux bien t'aider dans les débuts. Mmh.
Ouais, c'est vrai que c'est quand même atypique comme parcours, parce que c'est très tard, quand même, 22 ans. Oui,
c'est tard.
Pour changer,
c'est tard, c'est tard. Mmh. Et c'est tard, surtout l'opéra, la musique classique, c'est tout un monde, à part. Et je n'ai jamais voulu faire au départ la musique classique, l'opéra. Moi, c'était, je voulais faire de la soul music, faire chanter à la Aretha Franklin, à la Whitney Houston, à la Tina Turner. C'est mes références, Michael Jackson, tous ces personnes-là. J'aimais.
Donna Hightower.
Voilà, tout ça. Voilà.
Anita Ward.
Voilà, c'est ça. C'était pour moi, c'était ça que je voulais faire, ce style de musique. Et finalement, j'ai fait les premières, j'ai fait la fête de la musique à Crépy. Et après, une des premières auditions que j'ai fait, je me rappelle, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse dans Crépy. Et donc, je me suis dit, j'étais déjà une femme mariée et tout ça. Donc, je me suis dit, je vais m'appeler Brigitte. Brigitte, c'est mon deuxième prénom.
D'accord.
Et il y avait les journalistes qui sont venus de la région, là, c'est pas le Val. Vous savez, le journal Le Val.
Ah, Le Val qui existait à l'époque.
Qui existait à l'époque. Et on marque dans le journal, je sais pas, du Valois, je crois que c'était le Val ou l'Info, Valois, je ne sais pas. Brigitte Patché, l'étoffe d'une future cantatrice.
Un beau compliment.
Un beau compliment, l'étoffe. Ouais. Oh, que ça faisait 6 mois de chant que j'étais. J'avais mis une belle robe que ma sœur m'avait faite. Déjà, je me voyais déjà à l'opéra. Donc, j'ai chanté Summertime, je me rappelle à l'époque. Et il y avait... André Guilbert, qui était le directeur du conservatoire de Paris du 10e arrondissement, et qui m'a dit à la fin de l'audition, il m'a dit, si vous voulez chantonner, bon, restez là.
Restez à Crépy.
À Crépy. Mais tout se passe à Paris. Ouais. Il a demandé à ma prof, Anna Coppel, a dit, oui, prends-la sous ton aile. Et donc, il m'a donné l'adresse, il dit, à la rentrée, tu viens passer les auditions. Enfin, j'ai même pas passé l'audition, il dit, tu viens en mon nom, et tu vas t'inscrire dans le groupe adulte au conservatoire du centre de Paris. D'accord. De 10e.
Du 10e.
Voilà.
Alors moi, ce que je vous propose, si vous voulez, c'est qu'on repasse un extrait de ce que j'ai pu découvrir au Plaisir Belleville.
Oui, oui, oui.
Lydie, la voix de Lydie a besoin d'être posée, tranquille. C'est pas évident de chanter comme ça a cappella. Donc moi, Hervé, je te propose, c'est de découvrir un extrait de ce que j'ai pu écouter lors de ces journées du patrimoine.
Allons-y.
C'est pour vous, les auditeurs.
Thank you.
Nous sommes dans l'émission Artistes en Liberté et nous recevons Lydie Patchier. On va reprendre l'histoire de Lydie parce que c'est très intéressant.
On va pas la reprendre, on va la continuer.
On va la continuer. Ouais.
Parce qu'après, tu es partie au conservatoire de Rueil-Malmaison.
Après, d'abord, j'ai fait... Voilà, on va y arriver à Rueil-Malmaison après. Je suis dans le 10e arrondissement et donc la professeure Denise Ainurel, ma prof, elle me dit, non, ta voix est assez importante. Il y a des choses, il faut que tu quittes le groupe des adultes pour entrer dans le vrai cursus avec les jeunes et les autres, et que tu fasses du solfège aussi.
Ah oui,
voilà, solfège chanteur. Et donc, elle me dit, tu ne vas plus rester dans le 10e, je t'emmène dans l'autre conservatoire, au conservatoire du centre. Donc, à Châtelet, vers le Châtelet, le Hall, au-dessus, il y avait un conservatoire. Et donc, je suis partie pour la suivante. Là, et voilà, mon histoire qui continue. Et j'arrive au conservatoire du centre de là-bas. Et ma prof qui démissionne devant mes yeux, elle s'est pris la tête avec le directeur. Je commence, les cours commencent bien, je suis contente. Au premier trimestre, et ma prof qui part, voilà, voici mon histoire, et qui part avec tous les partitions sous du bras. Elle était avec son mari, qui était Marcel Ferru, qui est un metteur en scène, qui fait monter des opérettes et tout. Et elle, ma prof, j'étais témoin. J'étais la seule témoin de cette scène. Et elle dit au conservatoire, au directeur, « Vous n'êtes qu'un gros CON !» Pouf ! Elle met ses bagages et sort en claquant la porte. Je me retrouve dans... Je me dis, mais moi, mon rêve, ma mère m'a dit d'être dans un conservatoire. Elle m'a dit, va apprendre avec les vrais diplômes, etc., reconnus. Parce qu'on me demandera toujours, toujours, où j'ai étudié. Ou est-ce que j'ai étudié dans un cours privé? Est-ce que j'ai étudié dans un conservatoire? Donc, pour moi, c'était important d'avoir ce bout de papier. Et à peine arrivée, la prof s'en va. Et en partant, elle me sort. Son mari qui rentre dans la pièce, qui me dit, tu es témoin. Tu es témoin. Et moi, j'étais complètement... Et le directeur qui dit, vous êtes témoin, mademoiselle Patchier. J'étais là. Je ne voulais pas rentrer dans leur conflit. Parce que moi, je... Et le mari qui me dit... Bon, ta prof n'est plus là, tu n'as plus lieu d'être, de rester dans ce conservatoire. Ah. Tu nous suis, tu ne restes pas. Et on va te donner des cours gratuitement. Et moi, je regarde ce prof, ce monsieur, et j'ai dit, je ne peux pas quitter le conservatoire. Parce que je pensais à la promesse que j'ai faite à ma maman. Ouais. Et j'ai dit, je ne peux pas quitter. Je vais rester. Et il me dit, tu vas voir. Ils vont te bousiller ta voix. Tu dois suivre ta prof. C'est une trahison, qu'il me dit à moi, une haute trahison. Ils vont te bousiller la voix, ils vont tirer ta voix, parce que comme j'ai un timbre, vous voyez, un peu sombre, mais pourtant je suis soprano, et on me faisait travailler contralto, donc vraiment très grave, grave, grave. Je sentais bien que c'était forcé, elle me forçait la voix, c'était pas ma place. Et finalement, je suis restée, parce que je suis restée au conservatoire, parce que je voulais mon diplôme, et... Pas de chance, cette année-là, à la fin de l'année, j'ai chanté comme si je n'avais jamais pris un seul cours de chant. Ouais. J'étais traumatisée, j'étais pas bien à l'audition de fin d'année. J'ai foiré mon audition pour monter en classe et j'ai commencé à me dire, c'est fini. Parce que pendant 3-4 ans, j'ai travaillé contralto avec un nouveau, avec tout le répertoire.
Ouais, ouais.
Et brusquement, la nouvelle prof qui a remplacé ma prof, elle s'appelait Martine Suret, c'était une Italienne, une vraie cantatrice avec tout ce qu'on peut dire de la Castafiore. Une femme gentille, très gentille, mais elle était un peu autoritaire avec beaucoup de caractère. Ah, ouais. Et elle me dit, tu n'es pas contralto, tu es une soprano, une vraie soprano, une grande soprano. Non, elle me donne un morceau à travailler et j'étais tellement, j'avais plus confiance en moi, j'étais tellement tétanisée que j'ai raté, foiré... l'audition de fin d'année, et j'ai tellement pleuré que je me suis dit, c'est terminé, cette histoire d'opéra là. Déjà, je ne voulais pas te chanter dans l'opéra, j'ai commencé tard. Je me suis dit, cette histoire là va se terminer, je ne veux plus en entendre parler. En fin d'année, j'ai quitté le conservatoire. Je ne voulais même plus me réinscrire pour l'année suivante. J'ai pleuré et j'ai été à Autun en fait. Mes frères travaillaient pour le festival d'Autun, pour les vacances. Et ils ont demandé au directeur du festival, ils ont dit, notre sœur, elle chante.
Ah oui.
Et moi, qui avais perdu totalement confiance en moi, et je me suis dit, il y avait des milliers de plein de personnes, des milliers de personnes. Je ne sais pas si tu avais 20 000 personnes. Et mes frères disent, vas-y, Lydie, c'est ça, tu as toujours voulu chanter. J'ai dit, j'ai plus de voix, je ne sais même plus qui je suis. Mmh. Ils m'ont dit, monte. Le temps que j'étais en train de réfléchir, ils ont annoncé Lydie Pache qui va vous interpréter un Negro Spiritual. Et je suis remontée. Je suis montée sur scène. Et lorsque je suis montée sur scène, la magie a opéré. Ah. Et j'ai chanté le simple Negro Spiritual, Where Is There. C'était un Negro Spiritual que ma première prof de chant m'avait appris. Et que à chaque fois que j'étais pas bien, j'avais l'impression que je ne savais plus chanter. Ouais. Je me mettais à chanter cet air-là.
Ça remettait dans le.
Et ça me remettait. Et c'est cet air-là justement que je vous chanterai. C'est Where Is There. Et je me suis mise à chanter et la voix était sortie d'une limpidité, d'une. Je me suis plus posé la question si je suis contralto, je suis soprano, je suis. Ouais. J'ai voulu rien savoir. J'ai juste ouvert la bouche et j'ai chanté. Ouais. Il y a eu ce tonnerre d'applaudissements. Les gens ont applaudi. Et là, quand je suis descendue de scène, je me dis, mais qui m'empêcherait de chanter? Et je me suis dit, mais non, c'est ça que je vais faire. Je vais chanter, je vais continuer à chanter. Mais je vais quand même aller m'inscrire dans un autre conservatoire pour pas devoir, en fait, à mon ancienne prof qui est partie, que j'aimais beaucoup, j'étais brisée parce que je l'adorais, et que son mari, c'est le mari qui a décidé, et puis ce mari était autoritaire, il était très autoritaire, la prof, donc je me suis dit, c'est grâce à eux que j'étais dans le conservatoire du centre, maintenant qu'ils ne sont plus là, j'ai plus lieu, si j'ai du talent, je devrais aller m'inscrire dans un autre conservatoire, pour rien devoir, j'ai toujours voulu ne rien devoir à personne. Voilà. Et suivre ce que ma maman disait toujours. Elle a dit, il faut que tu travailles dur à la sueur de ton front. Et que
mais sans contrainte.
Sans contrainte, voilà. Il fallait y aller. Si tu dois y aller faire, tu dois faire. Et croire en ce que tu es.
Surtout qu'à cette époque-là, vous étiez déjà maman, Lydie, en plus.
J'étais déjà maman, une vie de famille. Et puis, des fois, j'allais à Paris. Heureusement, Crépy n'est pas très loin de Paris. J'allais aux répétitions, j'allais chanter. Et j'étais, quelque part, j'étais trop dans ma musique. J'étais tellement dedans que je savais c'est ça. Et quelque chose qui est très important, j'ai regardé à la télévision. Donc, après l'anecdote avec mes frères, j'ai regardé Marianne Anderson. Une contractrice contralto américaine qui chantait vraiment des Negro Spiritual comme une voix de velours. Et elle a subi beaucoup de problèmes de ségrégation et tout, mais elle chantait. Sa voix, quand je l'ai entendue, j'en ai pleuré et je me suis dit, c'est ça, c'est l'opéra que je vais faire. Je vais faire comme cette dame-là. Donc, je suis partie, sans vous couper, m'inscrire au conservatoire de Ruelle Malmaison et je me suis dit, Lydie, va simplement. Quel morceau tu aimes qui te fait confiance? C'est ce fameux Where Is There dont j'ai chanté devant on nous demandait de chanter une mélodie et un air d'opéra. Et donc, je me suis dit, un Negro Spiritual, ça peut passer comme une mélodie. Donc, j'ai chanté ça. J'ai demandé, on m'a dit, oui, vous pouvez le faire. Et j'ai chanté Au mieux, Babino Caro, un extrait de l'opéra de Puccini de Giannis Kiki. Et voilà, j'ai chanté ces deux morceaux. Et j'ai bien chanté, mais j'ai ce côté théâtral et tout ça. Et donc, sur 60, combien de candidats? Il y avait une soixantaine de candidats du monde entier. Ils avaient 3 places qui se libéraient, donc on m'a pris dedans.
Bravo!
On propose
à Lydie de nous faire une petite chanson.
Voilà, c'est pas une. Comme on dit, une chanson, on dit un petit air.
Un air, a cappella.
Vraiment, ce matin, la voix est un peu. Alors, mon fameux Where Is There? Where you are, when they crucify my Lord, where you see, when they crucify my Lord. Sometimes it causes me to tremble.
crucify, my Lord. Where you there when they laid him in the tomb? Are you there when they laid him in the tomb?
Je m'excuse, j'espère que ça passera bien à l'antenne, parce que pour enregistrer ce que vous faites, Lydie, c'est... Wow,
on en prend plein les oreilles.
Ah ouais, alors là, on... Bravo. Hein.
On va parler un peu quand même de la voix et tout ça. D'abord, première question, Yves, tu as appris le solfège?
Donc du coup,
c'était difficile.
C'était difficile, j'ai appris le solfège.
Généralement, on apprend quand on a 6-7 ans,
voilà,
mais
c'est ça.
Quand on attaque, tu es un peu plus âgé.
Plus âgé, donc j'étais avec les plus jeunes, donc je faisais tout pour fermer le son pour pas que les petits me dépassent de trop. Et c'est rigolo, parce que... Mais j'ai... ce qui était marrant, c'est que dans la voix, j'étais en avance. Et en solfège, un peu en retard. Donc, il a fallu combler vite le retard en solfège. Et donc, j'ai, entre 1993 et 2017, j'ai passé des concours, après des concours internationaux, le concours international des maîtres du chant français, dont j'étais diplômée. J'ai été diplômée du conservatoire de Rueil-Malmaison. Avec Elida Belvidal, j'ai eu les trophées des jeunes talents lyriques de l'Oise aussi. J'ai été passée après, je suis partie en Italie parce que je me suis dit, bon, j'ai fait en France, mais c'est bien d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs.
Bien sûr.
Pour voir si est-ce qu'on vaut quelque chose. Et j'avais toujours cette curiosité, je me suis inscrite au concours de la Spoleto. C'est un grand concours. Qui était fondé par Menotti, le grand compositeur italien, qui a Gian Corral, Carlo Pisto Menotti, qui a écrit des opéras, etc. Et il faisait partie du jury. Et voici une autre anecdote, parce que j'ai quitté Crépy. Je me suis dit, bon voilà, imaginez-vous mon mari à l'époque, il devait dire, mais... C'est là comment elle fait des choses. En fait, je décide de partir en Italie. Je pars en Italie et je pars en Italie avec juste pour ce concours-là. Et j'arrive dans les coulisses. Déjà, ça ne se passe pas comme en France. Toutes les filles étaient très bien habillées. Maintenant, les filles s'habillent bien aussi, mais les garçons, trois pièces, vraiment, les Italiens sont très... C'est vraiment un autre monde, quoi. Ils étaient vraiment bien habillés. Et moi, comme j'aimais bien m'habiller aussi, donc j'ai mis une belle robe rouge que ma sœur m'avait cousue, donc on me voyait tout de suite. On me dit, mais c'est qui cette fille de couleur, là, tout en rouge? Enfin, bref. Et il y avait un grand écran comme ça, donc on voyait les candidats qui sortaient. Et je me tends l'oreille, il y avait une magnifique Italienne qui a chanté La Reine de la Nuit. Elle a superbement chanté, elle était belle. Et je me suis dit, mais qui m'a dit de venir? Je ne suis pas encore... y a encore beaucoup de choses à faire dans ma voix. Là. Pourquoi je suis partie m'inscrire à ce concours-là? Surtout que l'âge limite a été dépassé un petit peu, mais le concours m'a quand même appelée. Et c'était, j'avais déjà la 30 et quelques, 32 ans, 33 ans, et limite d'âge, je pense que c'était 30 ans ou 32, je ne sais plus, mais j'ai dépassé un peu. Ils vous ont voulu m'écouter quand même. Je me suis mise, je vois la fille qui sort de la pièce en pleurs. Je me suis dit, mais... Parce que je me dis, mais pourquoi elle pleure? Ce qu'elle vient de faire, c'est parfait, c'est sublime. Et ce que j'ai pas oublié, c'est qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était Menotti. En fait, je n'avais pas eu la curiosité vraiment de voir qui a fondé ce concours. Moi, c'était juste Spoleto, grand concours italien. Et en fait, c'est Menotti. Et je vois passer un maestro. En effet, c'était lui. J'ai eu la chance de croiser Menotti. Il passait en tailleur, trois pièces coupées comme si c'était Borsalino de... comme si c'était le parrain, avec une grande écharpe autour du cou. Il marchait droit. Et tous les candidats, maestro, c'est maestro, maestro. Je me dis, mais c'est qui maestro? Moi, je me disais, mais c'est qui ce maestro? Je dis, c'est maestro. Alors, la fille qui sort en pleurant, elle me dit, maestro. Je me dis, mais quoi? Je me suis dit, mais c'est qui ce maestro qui est rentré, qui était vraiment très, très le droit et tout ça? C'est lui qui a fait pleurer cette fille. Mais pourquoi? Et je lui demande, mais pourquoi? Elle me dit, maestro a dit qu'il ne peut rien faire. Je me dis, mais comment ça? Avec votre voix? En fait, le maestro, il lui a dit, c'est parfait ce qu'elle a fait, mais elle n'a rien, il n'y a pas de sentiment, elle n'a rien, dans la couleur de sa voix, c'est froid, il n'y avait pas d'âme.
Ah oui, oula, oui, ça c'est chaud.
Et là, c'est chaud, et elle est sortie en pleurs, cette fille.
Ah oui.
Et elle avait, il lui a dit, c'était parfait ce qu'elle a fait, et elle ne comprend pas pourquoi c'était parfait, et il n'apprenait pas. Et je passais juste après cette dame. On appelle Lydie Pache. Je commençais à trembler. Tous mes membres commençaient à trembler. Après, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Il n'y a personne qui me connaît dans cette pièce-là. J'ai amené, j'ai amené l'air de Musetta dans la Bohème, Coin d'Omenvo. Et j'ai pris Pache, Mio Dio, ce que j'ai chanté à l'église. Je me suis dit, quand même, j'étais un peu. Je voyais, j'étais un peu gonflée, on peut dire, avec les mots, pour l'époque. Donc, j'y allais, je me suis mise à chanter mon premier air. Et je jouais la comédie, et je chantais. Parce que pour moi, j'ai pris plaisir. À ce moment-là, j'ai oublié maestro, j'ai oublié tout le monde. Oui. J'ai dit, bon, maestro, là, tu as fait pleurer dans ma tête. Ouais. Vous avez fait pleurer la belle fille, là, qui chantait très bien. Moi, pour me faire pleurer, c'est pas aujourd'hui. Donc, je me suis mise à chanter plus fort pour pas qu'on m'arrête, parce qu'il m'a histoire arrêté les gens. Il y a des personnes qui commençaient à peine le début, il arrêtait. Et donc, c'était très strict. Moi, je dis, on m'a pas arrêté le premier morceau. J'ai dit, bon, on me laisse poursuivre. J'ai dit, mon Dieu, le premier, c'est l'acrobatie, je réussis. Deuxième morceau, et je me vais et je lance le son. Et je me mets à chanter. Et je chante. Et il y a certains aigus qui étaient un peu coincés. Mais c'est pas grave, je luttais avec eux. Je donnais vraiment tout mon cœur.
Ouais.
Et je finis. Et je tombe sur le piano en tragédie. Là, alors là, c'était peut-être un peu trop. Le côté comédien, là, ça en était de trop. Je me plonge sur le piano. Il y a eu un silence. Je soulève ma tête. Toujours silence. Et je commence à me dire, oula. Je commence à m'excuser. Excusez-moi, vous savez, je ne savais pas, j'aurais pas dû me... Il m'arrête, il dit, arrêtez. Je me suis dit, il va me lessiver, maestro va m'assassiner. Et là, le maestro dit, il y a du bon matériel. Ah, je dis, ah bon, du bon matériel. Il dit, il y avait 78 candidats. Il dit, sur 78 candidats, on en a retenu 5. Dans vous. J'ai dit quoi? En fait, dans ma tête, c'est pas possible. Maestro, en France, des fois, je passais des concours, on me disait oui, et là, ceci, et là, ceci, cela. Et Menotti, le grand maître Menotti, me dit, vous avez, pour pouvoir travailler avec vous, parce qu'il est metteur en scène aussi, à la Spoleto, il faudra que vous partez en France, vous apprenez l'italien et revenez. Avant de partir, prenez la carte du directeur artistique. Et comme ça, on va communiquer le directeur et tout. Il m'a donné toutes les coordonnées. Je n'en revenais pas. Je tremblais comme ça. J'ai dit, mais je redemande. C'est sûr? Il me dit, oui, etc. Mais il m'a corrigé pour mon italien. Il a dit, on ne dit pas ça, on dit ça. Et je dis, merci, je suis sortie. Je riais, je chantais dans la rue. Et voilà mon souvenir de l'Italie. J'étais heureuse. Et j'ai pris le train. J'avais commencé à écrire quelques mots pour garder ces moments forts. Et je suis rentrée à Crépy, heureuse. Et je dis à mon mari, je lui dis, il faudra qu'on aille en Italie, vivre en Italie. Il dit quoi? Déjà, par rapport à ma belle famille, déjà, j'étais secrétaire, c'était bien. Ils disaient, ta femme, elle est folle parce qu'elle a quitté le travail de... elle a quitté le travail de conservatoire pour chanter, chanson. La chanson, peut-être, les chanteuses, on est considérées comme des femmes peut-être légères ou les femmes pas bien, je ne sais pas, l'éducation.
Ouais.
Or que j'étais droite, en fait. J'aimais juste ce métier-là, j'aimais chanter. Et j'aimais ma famille, et j'aimais tout ça, mais on ne m'avait peut-être pas compris à l'époque, tout simplement.
Il y a une nouvelle vie qui commençait, quoi, c'est ça en fait.
Voilà, il y a une nouvelle vie, et puis, comme ma vie de famille, on ne va pas rentrer dans les détails, après ça n'allait pas et tout, on m'a mis devant le pied, on m'a demandé de choisir entre l'opéra et la vie de famille. C'en était trop, moi je voulais l'opéra et ma famille. Et du coup, après, ça n'a pas été mon foyer. Moi aussi, après, j'ai tout fait pour quitter ce mariage, en fait. J'ai pas voulu sacrifier, si vous voulez, cette passion dévorante qui commençait. En plus, je suis partie en Italie, on me disait qu'il y avait quelque chose à faire. C'était très tôt pour des choix pareils. Je voulais savoir la suite, c'est-à-dire, je voulais savoir qu'est-ce que j'allais devenir après. Et du coup, voilà, j'ai divorcé, j'avais 3 enfants à cette époque-là. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec ma balise en carton, comme des Souza, on part en Italie, posé devant le maestro là-bas, dit, mais voici. Après, je me suis dit, oh, peut-être, ça va pas, il faut que je reste, j'essaie de travailler un peu, je repartirai en Italie quand mes enfants seront un petit peu plus grands.
Ouais.
Mais malheureusement, le maestro est décédé, était décédé. Dans les 2000 vers les 2000 et quelques, 2007, je ne sais plus, il était plus là. Donc, je me suis dit, mais qui va se rappeler de moi? J'ai dit, du coup, le projet Italie, j'ai laissé de côté et je me suis mise à poursuivre. J'ai passé des diplômes, essayé de faire des formations, passer mon DEM, avoir mes modules. J'ai poursuivi. Après, j'ai quitté la région pour partir vivre. D'abord, on est parti vers Roissy en France, et après je suis partie vivre à Clermont-Ferrand. Et là-bas, j'ai travaillé dans des écoles, des petits conservatoires, des petites écoles associatives à Gergovie-Val d'Allier, avec des élèves. J'ai commencé à enseigner, etc. là-bas. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand j'étais à Crépy, dès que ça commençait à être important, j'ai enseigné déjà à Crépy, au Pays du Valois d'ailleurs.
Oui.
C'était encore associatif. Je faisais des interventions dans les écoles, etc. Ils ont eu confiance en moi à l'époque et je donnais beaucoup dans les écoles et j'adorais ça et je faisais des cours de chant. Et donc j'ai tout quitté en fait par rapport à ma vie, je suis changée de région, Clermont-Ferrand, et après là-bas on a monté des beaux projets, on a monté AIDA avec les collégiens, etc. Un beau projet, j'ai beaucoup chanté avec pianiste, on a beaucoup de collaborations, et je suis revenue vivre en Bourgogne pour me rapprocher de mes parents. Et malheureusement, avec mon deuxième mariage, ça n'a pas non plus...
La vie d'artiste, la vie de famille, c'était un peu compliqué.
Et donc, j'ai continué à donner des cours de chant et à chanter, etc. Et j'ai compris que c'était ma vie. On ne pouvait plus m'enlever ça.
Mais il faut écrire un livre, Lydie. Hein.
Oui, mais oui, justement.
Parce qu'un parcours pareil, c'est impressionnant.
Je suis justement en train d'écrire ma biographie pour pouvoir montrer. Parce que tout n'a pas été toujours facile. C'est-à-dire qu'on était dans les premiers... dans le monde de lyrique, on avait Barbara Andrews, Dilsey Norman, les Américaines. Et ça, pour eux, c'était... Voilà, c'est anglophone. Donc, il y avait un petit... Tout ce qui était francophone, tout ce qui était les Outre-mer, les francophones, on était très peu, quelques chanteurs. Et c'était pas... On n'était pas valorisés vraiment totalement à notre niveau, au niveau de ce qu'on était, puisqu'il fallait partir en Italie ou ailleurs pour être... Il fallait que je quitte à cette époque, je devais quitter en fait. Et moi j'aimais trop la France, je me suis en française, donc et c'est quelque chose que... Donc je voulais pas quitter, je voulais rester là et faire ma route et pouvoir transmettre ma passion dévorante et ma passion aux jeunes pour leur montrer le parcours atypique que j'avais et que c'était possible avec du travail et de pouvoir faire ça et vivre de son métier. Et c'est maintenant je vis de mon métier je remercie le ciel, je remercie ma famille, je remercie tout ça parce que c'est pas évident.
Alors malheureusement, Hervé, il nous reste très peu de temps. Parce qu'avec Lydie, on pourrait faire 3-4 émissions
oui,
avec vous.
Et j'ai oublié, j'ai 5 enfants. Hein. J'ai 2 garçons en plus. Voilà, j'ai 5 enfants.
On parle un peu de l'actualité quand même.
Oui, parce qu'on va finir avec l'actualité quand même. Hein.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle fait Lydie en ce moment?
Alors l'actualité, il y a beaucoup de choses qui se peaufinent donc, à l'horizon. Et donc on est en train de préparer donc, Aïda, d'ailleurs, de Verdi. L'opéra qui va être joué avec Alain Solomonio, quelques amis chanteurs, avec un orchestre et avec chœur, et qui est en train de se peaufler. Je ne donne pas les dates encore on va faire au Plessis,
oui,
dans la voûte.
Les gens ils retrouvent le grain de sel qu'on a fait ensemble, c'est annoncé apparemment. Il y a une opportunité qui se présente pour l'année prochaine
en plein air, dans les douves.
Dans les douves,
exactement.
Et c'est magnifique les douves parce que moi j'ai découvert, je connaissais pas les douves, etc. Et ça va être, c'est magnifique. Et j'ai des projets aussi avec un poète d'origine péruvienne. On va faire poèmes et musique. Je vais faire des onomatopées sur ses poèmes. Il va lire ses poèmes. Il est sur Madrid. J'ai un livre que je suis en train d'écrire, justement. J'ai déjà un éditeur. Parce que ça, l'histoire, elle remonte. Il y a mon histoire et mon parcours. Et il y a mes descendants aussi.
Ouais.
Parce que je suis issu aussi. Sinon, on n'allait pas. Une heure ne suffit pas. Une lignée de royauté. Du côté de ma maman, qui était des Nilo-Soudanais, qui sont venus sur la Centrafrique, et du côté de mon père aussi, mais surtout de ma maman, du côté de ma maman. Et il y a tout ce côté-là qu'on...
Il va falloir refaire une émission avec vous, Lydie. Hein. On va être obligé. Hein. Il n'y a pas d'autre choix. Hein.
Et là, justement, le livre va retracer avec... j'ai quelques égyptologues du Louvre qui vont m'aider à... On va retracer toutes ces choses-là pour pouvoir... plus ma vie, ça va être un livre qui va être riche d'histoire et en même temps de mon parcours.
Et donc, on vous retrouve aussi à la communauté de communes. Vous donnez des cours de chant, c'est ça?
Oui, je donne des cours à la communauté de communes du Pays du Valois. Je suis la professeure de chant lyrique et de technique vocale. Donc, je m'occupe d'une grande classe de chant lyrique sur Crépy, sur l'Anisec, surtout sur l'Anisec. Sur Crépy, je m'occupe des chorales, d'un chœur enfant, chœur adulte, et sur le Nanteuil-Audouin aussi. Et j'enseigne aussi dans l'Aisne, à Ternier, au conservatoire de Ternier, et à Vervins et la Capelle.
Eh bien, dis donc, il y a de quoi s'occuper. Hein.
Il y a de quoi s'occuper.
Et juste un petit mot sur la compagnie Opéra World. Comment vous retrouvez? C'est toujours associé à vos projets, cette compagnie?
Alors, cette compagnie est associée à mes projets. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur ma page, à moi, hein, parce que quand il y a des affiches, des choses, je mets dessus, avec les références, mes coordonnées... que vous priez mon mail ou mes coordonnées.
Donc, Pace, P-A-C-E. Hein.
P-A-C-E, et puis Lydie, P-A-C-E, Lydie Pace, et puis Instagram aussi.
L-Y-D-I-E.
L-Y-D-I-E, voilà, c'est ça.
Hervé, est-ce que Lydie, on peut conclure avec votre voix, cette émission?
Bien sûr.
Hervé, dis donc, on aurait pu faire 2-3 émissions là. Hein.
Pour moi, c'est pas conclure, puisqu'on est sûrement appelé à se revoir.
Ah oui, parce qu'il y a tellement de choses à... En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Hein. On n'a pas vu passer l'émission. Hein, donc, incroyable.
C'est un parcours vraiment exceptionnel.
Voilà.
Merci Lydie d'être venue dans nos studios.
Et merci à votre mère.
Merci à surtout à ma maman.
Qui a cru en moi.
Et surtout que la musique pour l'Afrique, tout le monde chante et tout le monde danse. Et grâce à ça, je suis la première cantatrice, quand même, je tiens à le dire, j'ai oublié de le dire, de la République centrafricaine qui chante de l'opéra. Et,
bravo.
Et pour l'Afrique, j'ai envie de faire des choses pour l'Afrique aussi, pour qu'il y ait d'autres talents, d'autres jeunes.
Eh bien, Lydie, le studio vous est ouvert, vous avez des projets, vous venez de nous en parler, il n'y a pas de souci. On va être obligé de se quitter en musique. Hervé, tu voulais conclure ? Vas-y.
Une seconde, parce qu'on n'a pas parlé des combats de Lydie, parce qu'il y a aussi. Il faut aller voir sur sa page Facebook et il faut aller voir. Sur tout ce qui est tout ce qui est, parce qu'il y a des combats aussi de liberté, que ce soit en Centrafrique.
Le nom Patché vous va très bien.
Elle a chanté contre le sida. Enfin, il y a plein d'engagements à côté.
Il y a beaucoup d'engagements. On vit dans un monde terrible.
Mais en une heure, on n'a pas le temps.
En une heure, on n'a pas le temps. Dans un monde terrible, il y a la guerre. Et la guerre n'est jamais bon pour une personne. Ouais. Et les humains, on doit tous s'aimer les uns les autres. C'est plutôt, c'est plutôt quelque chose de paix. Comme je lui porte le nom Père Patché, et je suis une femme qui a foi vraiment à la vie, au Seigneur. Et je suis pour la paix de toutes les nations, de tous les peuples, et de la liberté des peuples, liberté des continents, liberté, la liberté pour tous, et la paix.
On se quitte en musique, en chanson, Lydie ? Voilà. Donc je vous propose de reprendre un extrait de ce que Lydie Patché nous a proposé à l'église de Plessis-Belleville, l'église Saint-Germain.
Merci Lydie.
Merci. Allez les auditeurs, on se dit bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
En liberté.
Une émission goupillée par Fred et Hervé qui vous fait découvrir, dans les conditions du direct, les artistes locaux.